Chapitre 23. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, ce monde effleure. Nous sommes arrivés à la barrière de Malgrange-sur-Nancy à la fin du printemps 1986. Au printemps, tout semble possible, la lumière et les promesses. On sent que le bras de fer entre l'hiver et l'été est déjà gagné, que les dés sont pipés, un jeu tronqué par avance, même s'il pleut. Les filles de l'assistance se contentent de peu. C'est ce qu'une éducatrice avait dit à ma troisième famille d'accueil quand j'avais 7 ans, comme si je n'entendais pas, comme si je n'existais pas. Être abandonnée à la naissance devait me donner un statut d'invisibilité. Et puis, quel est ce peu ? Moi, j'avais le sentiment de tout avoir, ma jeunesse, mon envie d'apprendre à lire l'œuvre de Dieu, la part du diable. Un dictionnaire, un enfant dans le ventre, une maison, un travail, une famille qui allait être ma première famille. Une famille bancale, mais une famille quand même. Depuis ma naissance, je n'avais jamais rien eu, à part mon sourire, quelques vêtements, ma poupée Caroline, mes 33 tours de Dao, Indochine, traînaient et mes Tintins. À 18 ans, j'allais avoir un travail déclaré, un compte en banque et une clé à moi, rien qu'à moi. Une clé où j'allais accrocher tout un tas de breloques qui feraient du bruit pour me rappeler que j'avais une clé. Notre maison était carrée avec un toit de tuiles recouvertes de mousse, comme en dessinent les enfants de maternelle. Deux forsythias étaient en fleurs de chaque côté de la maison. On aurait dit que la petite bicoque blanche aux fenêtres rouges portait des boucles blondes. Une haie de rosiers rouges encore en bouton séparait l'arrière de la maison de la ligne de chemin de fer. La route principale, traversée par les rails, se tortillait à 2 mètres du palier sur lequel reposait un paillasson fatigué. Les gardes-barrières, monsieur et madame Lestrille, partaient en retraite le surlendemain. Ils avaient 2 jours pour nous former, nous expliquer les ficelles du métier, baisser et ouvrir la barrière. Monsieur et madame Lestrille quittaient leurs meubles vieillots, leurs lino et leurs savonnettes noircies. Des cadres accrochés au mur depuis des années venaient juste d'être enlevés. Des rectangles un peu plus clairs marquaient la tapisserie à fleurs par endroits. Ils avaient abandonné une Joconde en canevas près de la fenêtre de la cuisine. Dans la cuisine, pas de cuisine. Juste une pièce grasse où trônait une vieille gazinière et 3 éléments soutenus par des vis rouillées. Quand j'ai ouvert le minuscule frigidaire comme abandonné derrière une porte, j'ai trouvé un morceau de beurre jauni mal emballé. Malgré la vétusté et la saleté de l'endroit, je parvenais à voir ce que j'en ferais, comment je transformerais ces pièces d'un coup de pinceau. Je parvenais à sourire devant la couleur des murs repeints qui se cachaient derrière les fleurs rabougries de ce papier datant d'avant-guerre. J'allais tout redresser, surtout les étagères qui m'aideraient à soutenir notre vie future. Philippe Toussaint m'a promis à l'oreille de retapisser tous les murs dès que les Lestrilles auraient le dos tourné. Avant de partir, le vieux couple nous a laissé une liste de numéros de téléphone de secours, au cas où la barrière se bloquerait. Depuis qu'on ne remonte plus la barrière à la manivelle, les circuits peuvent se bloquer. Ce genre de conneries arrive plusieurs fois par an. Ils nous ont laissé les horaires des trains, horaires d'été, horaires d'hiver. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Les jours fériés, de grève et les dimanches, il y avait moins de passages et moins de trains. Ils espéraient qu'on nous avait prévenus. Les horaires seraient difficiles, le rythme de travail fatigant. On ne serait pas trop de 2. Ah si, ils allaient oublier. Nous avions 3 minutes entre le début du signal sonore et le moment où le train passerait pour baisser la barrière. 3 minutes pour appuyer sur le bouton du poste de commande qui activait la barrière et bloquait la circulation. Une fois que le train était passé, la réglementation exigeait 1 minute d'attente avant d'activer la montée de la barrière. En enfilant son par-dessus, Monsieur Lestrille nous a dit « Un train peut peut-être en cacher un autre, mais nous, en 30 ans de barrière, on n'a jamais vu de train en cacher un autre. » Sur le pas de la porte, Madame Lestrille s'est retournée pour nous avertir. « Méfiez-vous des véhicules qui essaieront de passer quand la barrière sera baissée. Des cinglés, il y en aura toujours. Des gens bourrés, aussi. Pressés de partir en retraite, ils nous ont souhaité bonne chance et ont ajouté sans sourire « C'est à nous de prendre le train. » Et nous ne les avons jamais revus. Dès qu'ils ont passé la porte, au lieu de tout retapisser, Philippe Toussaint m'a enlacé et m'a dit « Oh, ma Violette, qu'est-ce qu'on va être bien ici, quand tu auras tout arrangé ?» Je ne sais pas si c'est l'œuvre de Dieu, la part du diable, que j'avais commencé la veille, ou le dictionnaire que j'avais acheté le matin même qui m'a donné la force, mais je me suis senti le courage de lui demander de l'argent pour la première fois. Depuis un an et demi, mes salaires étaient versés sur son compte. Je me débrouillais avec mes pourboires de serveuse, mais là, je n'avais plus un sou en poche. Il m'a généreusement donné 3 billets de 10 francs qu'il a eu un mal de chien à sortir de son portefeuille. Portefeuille auquel je n'ai jamais eu accès. Chaque jour, il comptait ses billets pour s'assurer que rien n'avait disparu. Quand il faisait ce geste, il me perdait un peu. Pas moi, mais l'amour dont j'étais faite. Dans l'esprit de Philippe Toussaint, tout était simple. J'étais une fille perdue qu'il avait ramassée en boîte de nuit et il me faisait travailler en échange du gîte et du couvert. En plus, j'étais jeune et jolie, pas contrariante, de bonne composition, plutôt courageuse et il adorait me posséder physiquement. Et dans une sous-couche plus perverse de son esprit, il avait pigé que j'avais une peur bleue de l'abandon, donc que je ne partirais pas. Et avec un enfant de lui, il savait qu'il m'avait immobilisée là, à portée de main. J'avais 1h15 avant le prochain train. J'ai traversé la route avec mes 30 francs en poche et je suis entrée au casino pour acheter un seau, une serpillière, des éponges et des détergents. J'ai tout acheté au hasard et au moins cher. J'avais 18 ans, je n'y connaissais rien en produits ménagers. Normalement, à cet âge-là, on s'achète de la musique. Je me suis présentée à la caissière. « Bonjour, je m'appelle Violette Trenet. Je suis la nouvelle garde-barrière d'en face. Je remplace monsieur et madame Lestrille. » La caissière, dont le prénom Stéphanie était indiqué sur son badge, ne m'a pas écoutée. Elle a bloqué sur la rondeur de mon ventre et m'a demandé « Vous êtes la fille des nouveaux gardes-barrières ?»« Non, je suis la fille de personne. Je suis la nouvelle garde-barrière. » Tout était rond chez Stéphanie, son corps, son visage, ses yeux. On aurait dit qu'elle avait été dessinée au crayon pour illustrer une bande dessinée, une héroïne pafutée, naïve et gentille avec l'air toujours étonné, les yeux écarquillés en permanence. « Mais vous avez quel âge ?»« 18 ans. »« Ah, d'accord. Et le bébé, c'est pour quand ?»« Septembre. »« Ah, bah c'est bien. On va se voir souvent alors. »« Oui, on va se voir souvent. Au revoir. » J'ai commencé par laver les étagères de la chambre avant de ranger nos vêtements. J'ai regardé sous la moquette crasseuse, il y avait du carrelage. J'étais en train de la retirer quand l'alarme de la barrière s'est mise à retentir. Le train de 15h06 s'annonçait. J'ai couru jusqu'au passage à niveau. J'ai appuyé sur le bouton rouge qui correspondait à la descente de la barrière. J'ai été soulagée quand je l'ai vu s'abaisser. Une voiture a ralenti et s'est arrêtée à ma hauteur. Une longue voiture blanche, dont le chauffeur m'a lancé un regard noir, comme si j'étais responsable des horaires de train. Le 15h06 est passé. Les rails ont tremblé. Les passagers étaient ceux du samedi. Des grappes de filles qui allaient passer l'après-midi à Nancy pour faire du shopping ou flirter. J'ai pensé, peut-être des filles de l'assistance, celles qui se contentent de peu. En appuyant sur le bouton vert pour relever la barrière, j'ai souri. J'avais un travail. Des clés, une maison à repeindre, un enfant dans le ventre, une moquette à enlever, un homme bancal à qui il ne fallait pas que j'oublie de rendre la monnaie des courses, un dictionnaire, de la musique et l'œuvre de Dieu la part du diable. Allez.